RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Dans 27 jours précisément auront lieu les élections européennes. Ce sont plus de 360 millions d'électeurs à travers l'Union qui seront appelés aux urnes pour constituer le Parlement et ses 720 eurodéputés. Alors pour les Français, il s'agira d'élire 81 députés issus de 21 listes. Toute cette semaine, pour y voir plus clair dans Je pense donc j'agis et pour vraiment comprendre l'importance de ces élections, on va s'emparer des grandes thématiques de ce scrutin. Demain, on évoquera l'agriculture avec Anne Kerléau, mercredi la crise migratoire avec Madeleine Vatel et jeudi la défense et la paix avec Jean-Baptiste Labeur. Mais s'il y a bien un thème qui s'impose comme l'un des sujets majeurs de la campagne, c'est l'écologie, pour les candidats comme pour les Français d'ailleurs, qui ont placé le changement climatique comme le deuxième enjeu prioritaire de ces élections derrière la crise migratoire. Les électeurs sont ainsi de plus en plus conscients de l'urgence d'une action politique forte et unie en faveur de la protection de notre planète. Ça s'est ressenti, souvenez-vous, en 2019 avec une vague verte historique aux élections européennes. Alors, quels sont les enjeux écologiques qui animent cette arène politique complexe? Comment les décideurs européens peuvent-ils vraiment répondre aux attentes grandissantes de leurs citoyens en matière de protection de l'environnement? Voilà ce que je vous propose d'étudier ce matin. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Qu'attendez-vous des élections européennes en matière d'écologie? Quels sont les points et les sujets sur lesquels vous allez être particulièrement vigilants avec vos candidats? Est-ce que vous pensez que l'Europe en fait suffisamment ou qu'elle n'a pas assez de moyens? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Penser, c'est bien. Agir, c'est bien aussi. C'est ce qu'on fait chaque jour dans cette émission. On ne va pas y échapper dans la seconde partie de l'émission puisqu'on parlera des jeunes. Comment la jeunesse s'empare-t-elle de l'écologie au regard de l'Union européenne? On en parlera à 10h avec de beaux projets. Pour discuter avec nous dans cette première partie, je vous présente nos trois invités. Bonjour Caroline François-Marsal.
Bonjour.
Bienvenue dans Je pense donc j'agis. Vous êtes responsable Europe pour le réseau Action Climat. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Arnaud Schwartz, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue également à vous. Vous êtes le vice-président de France Nature Environnement et représentant de FNE au Comité social et environnemental européen. Peut-être un mot, Arnaud, sur le CESE. Hein. C'est un organe consultatif de l'Union européenne.
Exactement, il a été créé dans les années 50, il est inscrit dans les traités de l'Union européenne et son but c'est d'avoir un point de vue, celui des organisations de la société civile, des employeurs et des travailleurs sur les projets législatifs de la Commission européenne, du Parlement européen ou du Conseil des États membres. Donc c'est une consultation de la société sur les projets de loi européens.
Merci beaucoup Arnaud de participer en direct de Bruxelles. Et notre troisième invité, c'est vous, Neil Makarov. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de Stratégique Perspective. C'est un groupe de réflexion sur l'action climatique en Europe. On appelle ça un think tank également.
Exactement, c'est un cercle de réflexion sur la politique climatique européenne.
Et vous êtes également expert à la Fondation Jean Jaurès. Alors on n'a qu'une heure hein, pour parler d'un sujet pourtant très vaste et dont il est parfois difficile d'en dessiner les contours. Avant d'entrer vraiment dans le cœur des enjeux écologiques, je pense qu'il va falloir qu'on aille un peu plus profondément sur le rôle de l'Union européenne en matière d'écologie. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs, l'Union européenne, tout comme ses 27 États membres, adoptent des politiques climatiques. On en vient donc aux compétences de l'Union européenne. On va commencer par ça en matière de l'action pour le climat. Qui fait quoi, Neil Makarov? Est-ce que l'Union européenne a tant de pouvoir sur ce sujet ou finalement c'est un peu plus complexe et ça dépend de chaque État?
Alors l'Union européenne a énormément de compétences sur la question de la transition écologique et sur le climat en tant que tel, tout simplement parce qu'elle représente les 27 États membres lors des négociations internationales sur le climat, les fameuses COP. Et donc elle est vraiment la voix des Européens dans le forum international sur le climat. Et au niveau domestique, clairement, vu que votre émission elle s'appelle « Je pense donc j'agis », l'Union européenne pense la transition écologique et elle agit à travers différents leviers. Tout d'abord la régulation, réglementation, comme on lui connaît. Typiquement, elle a interdit la vente des véhicules essence, diesel et hybride neufs pour 2035. Elle fixe également des objectifs de déploiement de la transition énergétique, comme les énergies renouvelables ou l'efficacité énergétique, par exemple. Et elle investit également. Alors, c'est peut-être un des points noirs, en réalité, de cette mandature, parce qu'elle a trop peu investi.
Oui.
Mais elle a aussi une compétence d'investissement qui est assez importante. Et elle investit directement dans les territoires sur l'objet de la transition écologique.
Est-ce qu'on peut dire que son champ d'action est vraiment limité par le principe de subsidiarité, d'après vous, Anil Makarov?
En réalité, son champ d'action s'est plutôt élargi ces dernières années, notamment parce que les États membres ont vu dans l'Union européenne un échelon pertinent pour agir sur le climat, parce qu'en effet, la crise climatique ne s'arrête pas aux frontières nationales et que si on veut vraiment faire cette transition écologique, c'est-à-dire faire bouger 450 millions d'Européens, l'Union européenne est le bon échelon. Et donc, les États ont accepté finalement qu'elle aille dans sur des thématiques qui ne sont pas forcément ses compétences propres. Typiquement, elle a mis en œuvre ce qu'on appelle le principe de pollueur-payeur pour des secteurs comme l'aviation ou le maritime. Elle a aussi commencé à réglementer, typiquement, je le disais, pour le développement des énergies renouvelables, où elle fixe des objectifs pour les États pour qu'ils puissent développer les énergies renouvelables. Donc, on voit que elle va un peu au-delà, finalement, du principe de subsidiarité, mais ça permet de faire des économies d'échelle, ça permet d'être beaucoup plus efficace que si on le faisait à l'échelle des 27 États membres.
Caroline François-Marsal, donc des compétences importantes pour l'Union européenne, des compétences partagées également. C'est aussi à chaque État finalement, d'avoir un rôle dans cette affaire, hein, si je puis dire. Pourtant, on a le sentiment parfois que c'est extrêmement lourd quand il faut voter une loi, quand il faut changer quelque chose, alors agir justement. On a le sentiment que tout le monde s'accorde et c'est vraiment compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Caroline?
Oui, tout à fait. Il y a une complexité au niveau européen, mais qui témoigne en fait de l'exercice démocratique à 27 et qui est normal justement pour trouver les solutions les plus adaptées à l'ensemble des contextes, qu'ils soient nationaux ou territoriaux, sur l'environnement. L'Union européenne a eu vraiment un rôle ces dernières années de tirer l'ambition environnementale et climatique des États vers le haut. On le voit en France sur plusieurs sujets, dont les énergies renouvelables, par exemple. Et il y a aussi un chiffre qui est assez évocateur, c'est qu'en France, 80% des législations environnementales sont issues du droit européen. Donc on voit vraiment que c'est l'Union européenne qui chapeaute complètement les avancées sur ces sujets-là.
Arnaud Schwartz, est-ce que ça va assez vite ou c'est très long ?
Ben, si on écoute les scientifiques, c'est trop lent. Après, quand on conçoit que la société elle est complexe et qu'on est très très nombreux à devoir se mettre d'accord, ben finalement, ça va quand même relativement vite au courant de ces dernières années, grâce à la dernière mandature où il y a une poussée forte, vous l'avez dit, des partis écologistes au Parlement européen. On a eu des avancées qui sont quand même relativement rapides, mais c'est sûr, il faudrait en faire beaucoup plus si on suivait ce que la science nous conseille de faire.
Neil Makarov, alors justement, revenons quelques années en arrière. En 2019, et je l'ai dit en introduction, il y a eu une vraie vague verte. C'était assez historique, voire inattendu d'ailleurs. Qu'est-il resté de cette époque? Parce que c'était il y a quand même quelques années. Depuis, il y a quand même eu du chemin, hein, sur les questions écologiques. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après ces élections européennes en 2019?
Oui, tout à fait. 2019 marque clairement un tournant dans la politique climatique européenne, tout simplement parce que porté par la société civile, porté par la mobilisation citoyenne, le climat est devenu la priorité centrale des institutions européennes. Et jusqu'à la tête de la Commission européenne, vous avez Ursula von der Leyen, qui est pourtant une femme de la droite allemande conservatrice, qui a fait du climat la grande priorité de son mandat et qui a lancé ce qu'on a appelé le Pacte vert européen,
oui,
qui est la plus grande série de réformes jamais adoptées à l'échelle européenne sur la question de la transition écologique. Et on peut citer des avancées majeures pendant ce mandat. Typiquement, on met en place ce que j'ai dit, le principe de pollueur-payeur pour certains secteurs qui jusqu'à présent ne faisaient pas d'efforts climatiques, comme l'aviation ou le maritime. Il y a la taxe carbone aux frontières qui a été adoptée, notamment sur les produits industriels. On a prévu de doubler notre part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Enfin voilà, il y a toute une série de grandes réformes climatiques à l'échelle européenne qui ont été conduites, et dans un plutôt large consensus en fait au cours du mandat, jusqu'à cette dernière année avant les élections européennes, à partir de 2023, où en fait le consensus s'est érodé parce que les partis politiques, voyant l'échéance des élections européennes arriver, ont commencé à vouloir polariser au maximum sur la question du climat. Et c'est de là qu'on a vu en fait ce qu'on a appelé la vague anti-pacte vert monter à l'échelle européenne.
Et c'est là où on peut sentir aussi une certaine lourdeur dans la prise de décision. Le pacte vert qu'on appelle aussi Green Deal, Neil Makarov, on entend souvent cette expression. Je rappelle un ensemble de politiques, de mesures visant à promouvoir la durabilité environnementale et donc à lutter contre le changement climatique. Une stratégie ambitieuse à l'époque, Caroline François-Marsal, c'était en décembre 2019, je crois, que ça avait été proposé par la Commission européenne. Ambitieuse, mais pas utopique.
Oui, effectivement, comme le disait Neil, c'est le paquet le plus ambitieux jamais adopté au niveau européen. Il faut le souligner parce que c'est une avancée réelle. En revanche, c'est important de garder en tête que les objectifs qui sont fixés et les différentes réformes qui viennent avec le pacte vert restent en deçà de ce que recommandent les scientifiques pour maintenir une trajectoire à plus 1,5 degré et 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, comme on s'est engagé à le faire via l'accord de Paris. Pour vous citer un exemple, si on prend la loi climat, qui chapeaute en fait l'ensemble du pacte vert puisqu'elle fixe l'objectif de réduction de gaz à effet de serre de 55% par rapport à 1990 pour 2030. On est en deçà de ce qu'il aurait fallu adopter pour respecter l'accord de Paris puisqu'il aurait fallu moins 65%. Et on retrouve ces écarts-là sur plusieurs textes. Par exemple, sur l'efficacité énergétique, on a eu un objectif adopté pour 2030 de réduction de 11% de consommation d'énergie, là où on aurait dû, par exemple, adopter 20%. Mais il n'empêche que l'ambition arrêtée par les co-législateurs européens est bien plus haute que ce qu'elle était initialement, grâce au Green Deal et grâce aussi à ce qu'a mis sur la table Ursula von der Leyen en 2019.
Donc une stratégie ambitieuse pour transformer l'économie européenne en une économie peut-être plus respectueuse du climat et de l'environnement. D'ailleurs, Neil Makarov, je me trompe peut-être sur votre prénom d'ailleurs, je suis désolé, c'est peut-être Neil plutôt que Neil.
Oui, c'est Neil.
Ah ben, je suis confus, j'ai modifié ça.
Aucun problème.
On fera au podcast aussi. On parle vraiment d'économie européenne quand il s'agit d'évoquer le changement climatique et d'essayer de lutter contre ce changement climatique, ça nécessite de penser une nouvelle économie.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que d'ailleurs l'Union européenne s'est dotée d'une stratégie de long terme à 2050 qui est la neutralité climatique. Et d'ailleurs, on voit que le fameux pacte vert, le Green Deal européen et toutes les lois qui ont été adoptées pendant ce mandat ont déjà un effet très concret sur l'économie. Et c'est pas seulement bon pour le climat d'ailleurs, c'est aussi bon pour notre souveraineté énergétique, pour notre industrie. Typiquement, un des premiers effets du pacte vert, c'est de nous rendre plus indépendants vis-à-vis de l'importation d'énergie fossile, que ce soit le gaz, le pétrole ou le charbon. Parce que si on double la part des énergies renouvelables d'ici à 2030, on pourrait réduire nos importations de gaz d'un tiers en 2030. Et un tiers de gaz en moins, ce sont des économies significatives pour les Européens. C'est l'équivalent de ce que consommait l'Allemagne avant la guerre en Ukraine, donc un volume très important. Donc on voit que le pacte vert, c'est pas seulement bon pour le climat, mais c'est aussi une stratégie quelque part de souveraineté énergétique qui peut nous rendre beaucoup plus indépendants. Parce que sur un continent sans gaz ni pétrole, seule la transition écologique, quelque part, peut nous assurer ce filet de sécurité énergétique. Et on voit qu'il y a déjà des effets très concrets, parce que l'année dernière, en 2023, il y a eu un boom sans précédent du développement des énergies renouvelables, solaire et éolien. Et en seulement un an, la part du charbon dans le mix électrique européen a diminué d'un quart. Et enfin, on a commencé à baisser aussi notre consommation de gaz. Donc clairement, le modèle économique et le modèle énergétique européen va changer à travers ce pacte vert européen.
Il est un peu plus de 9h15 dans Je pense donc j'agis. Ce matin, on parle des élections européennes. On fait le focus sur les enjeux écologiques avec nos invités, avec vos témoignages également. Dites-nous ce que vous attendez des élections en matière d'écologie. Quels sont les points et les sujets sur lesquels vous allez être particulièrement vigilant avec vos candidats, vos listes. Pensez-vous que l'Europe en fait suffisamment d'ailleurs ou qu'elle n'a pas assez de moyens? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et avec nos trois invités jusqu'à 10h, Caroline François-Marsal, je rappelle que vous êtes responsable Europe pour le réseau Action Climat. Neil Makarov, vous êtes le directeur de Strategic Perspective, un groupe de réflexion sur l'action climatique en Europe. Et vous êtes également expert à la Fondation Jean Jaurès. Et puis Arnaud Schwartz nous accompagne également en direct de Bruxelles, vice-président de France Nature Environnement et représentant au Comité Social et Environnemental Européen, le CESE. Arnaud Schwartz, comment se Green Deal, ce pacte vert, a-t-il été accueilli par les représentants de France Nature Environnement ?
Ben, pour nous, alors juste une petite précision, c'est le Comité économique et social européen.
Ah, oui.
Il n'y a pas le nom environnemental, contrairement au niveau français où on a un Conseil économique et social environnemental. Là, au niveau européen, c'est encore... une vieille appellation qui date des années 50, comme je disais, c'est un comité économique et social, même s'il y a quelques représentants des associations citoyennes pour la protection de la nature et de l'environnement. Nous, France Nature Environnement, qui est donc une fédération la plus large des associations implantées dans les territoires, mais aussi des associations thématiques qui s'intéressent à tous les domaines de la vie en société, qui ont quelque part un lien avec l'environnement. On était très intéressé par la présentation du programme pour la dernière mandature, donc ce Green Deal, ce pacte vert pour l'Europe, qui avait bien sûr une dimension climatique essentielle très très forte, mais aussi tout un tas d'autres volets pour lutter contre la pollution, pour protéger la biodiversité, la restaurer. Faire en sorte que notre santé se porte mieux en termes de qualité de l'air, de l'eau, des sols. Donc on a perçu cette proposition législative complète comme une tentative d'approche transversale, un peu systémique, un peu cohérente des problèmes qui se posent à nous du fait de notre mode de développement qui tient pas compte des limites planétaires. Et donc une tentative de redevenir raisonnable tout en faisant un moyen de développement socio-économique, donc faire en sorte que tout le monde soit accompagné, y compris les plus fragiles.
Neil Makarov, pour qu'on comprenne bien aussi le fonctionnement de l'Union européenne en rapport avec ce Green Deal, comment ça fonctionne ? Il a été donc proposé par la Commission, c'était en décembre 2019. Quelles ont été les différentes étapes jusqu'au vote final ?
Alors tout d'abord, en 2019, c'était avant tout une stratégie pour atteindre la neutralité climatique. Donc il n'y avait pas de proposition législative très concrète.
Oui.
Mais très vite, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé des lois européennes qui permettent de décliner cet objectif de neutralité climatique en action très concrète dans tous les secteurs. Par exemple, le secteur de l'automobile, on va promouvoir le véhicule électrique. Le secteur de l'industrie, on décide d'appliquer le prix du CO2 pour inciter les industriels à investir dans la transition. Donc secteur par secteur, on a vu des lois européennes arriver pour véritablement baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et là a commencé le processus de négociation qui est toujours très long à l'échelle européenne entre les 27 États membres et le Parlement européen. Et dans cette bataille entre les États membres et le Parlement européen, il y a eu des compromis qui ont été assez ambitieux, qui ont été trouvés. Mais on voit vraiment que c'est la Commission européenne, pendant ce mandat, qui vraiment a donné l'impulsion à ce pacte vert. Et ce qui est intéressant, c'est que ce pacte vert européen et toutes les lois qui le composent ont résisté aux multiples crises auxquelles on a dû faire face pendant ce mandat. Le Covid-19, la crise, la guerre en Ukraine, la crise énergétique. On s'aperçoit qu'à tout moment, le pacte vert aurait pu dérailler, aurait pu ne plus être une priorité européenne. Mais c'est tout l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que le pacte vert est devenu finalement une des solutions pour faire face à ces crises, typiquement sur le Covid, après la pandémie de Covid-19. Le pacte vert a permis de réorienter une grande partie du fonds de relance européen, 275 milliards d'euros, vers la transition écologique. Donc on voit que, quelque part, il a non seulement résisté aux crises, mais il est même devenu une des solutions face à ces crises. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à l'adoption de cet arsenal législatif sur le climat pendant ce mandat.
On insiste un peu sur le Green Deal, hein. Ce matin, vous l'entendez dans cette émission. C'est normal parce que c'est quand même un élément phare des enjeux écologiques pour l'Union européenne. On verra, hein, bien sûr, dans quelques minutes, les enjeux pour ce scrutin dans 27 jours. On évoquera peut-être quelques propositions de listes, en tout cas pour la France. Ce Green Deal, et Neil Makarov, vous l'avez très bien dit, hein, c'est vraiment ambitieux, c'est très complet. Si on va un peu plus sur dans le détail, Caroline François Marsal, donc c'est un large éventail, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, avec des investissements dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique des bâtiments, les transports durables, la réduction de la pollution et la préservation de la biodiversité. C'est large, on a un peu pour tous les goûts, j'aime pas trop cette expression, mais c'est très large, Caroline.
Oui, c'était vraiment l'ambition de cette feuille de route, donc le Green Deal qui fixe la neutralité climatique pour 2050, c'était d'aller en fait réformer l'ensemble des secteurs de l'économie, et c'est pourquoi l'ensemble des textes sont aussi variés. Donc on a beaucoup parlé d'énergie, de climat, on avait aussi un sous-ensemble du Green Deal qui visait à verdir le secteur agricole, et notamment la politique agricole commune. On a vu malheureusement sous cette mandature que ça a été l'un des impensés, l'un des échecs justement de ce pacte vert, puisque le seul texte contraignant sur le secteur agricole, qui était donc le règlement sur la réduction progressive des pesticides jusqu'en 2030 de moitié, a finalement été rejeté par le Parlement européen en novembre dernier, sous l'impulsion de certains partis, notamment le PPE au niveau européen. Et en fait, on voit que voilà, sur l'agriculture, on n'a pas eu la réalisation de cette ambition environnementale pour intégrer vraiment la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité avec l'agriculture.
Elisa nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Elisa.
Oui, bonjour à tous. Et je suis choquée, Melchior. Vous ne pouvez pas tout faire, lire les mails en même temps, conduire l'interview. Oui. L'homme orchestre. Bon, alors très rapidement. En mars 2024, s'est formée une chaîne humaine avec carton rouge devant le Parlement européen de Strasbourg pour demander aux futurs candidats un engagement pour les énergies renouvelables, qu'ils s'opposent au lobbying des multinationales. Une taxonomie verte sans greenwashing et sans énergie nucléaire, parce que les déchets nucléaires toxiques pour des millions d'années, c'est pas très bio, c'est pas compostable, c'est pas enfouissable, enfin c'est pas très, voyez ce que je veux dire. Et surtout prendre des décisions claires pour l'avenir de la planète. Alors est-ce qu'ils vont être entendus? Est-ce que cette taxe pourra avoir un impact?
Eh bien, merci beaucoup, Elisa, d'avoir posé cette question, d'avoir apporté cette remarque à propos de cette chaîne humaine devant le Parlement européen de Strasbourg. C'était en mars, hein, il y a quelques semaines. Est-ce que vous en avez entendu parler, Neil Makarov? Est-ce que ce type d'action peut vraiment permettre d'aller beaucoup plus loin et d'essayer de sensibiliser les candidats?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est une action de mobilisation qui est extrêmement importante. On l'a vu en 2019, la mobilisation citoyenne a abouti sur les plus larges réformes jamais adoptées à l'échelle européenne sur le climat. Le vrai risque qu'on voit aujourd'hui en 2024, c'est au contraire un recul, une pause, voire même un détricotage de tout ce qui a été adopté pendant ce mandat, parce que vous avez une partie de l'échiquier politique européen qui veut abandonner le pacte vert et revenir en arrière. Donc, c'est extrêmement important que les citoyens et les citoyennes puissent continuer à se mobiliser en faveur de la transition écologique à l'échelle européenne. Surtout qu'il faut le rappeler, les études d'opinion placent le climat et la transition écologique parmi les premières préoccupations des citoyens européens. Donc il y a vraiment quelque part un décalage entre le discours politique d'un côté qui est très véhément contre la transition écologique ou en tout cas qui dit qu'on va trop vite et la préoccupation des citoyens et des citoyennes qui est très claire, c'est la crise climatique est là et on a besoin d'agir. Donc toute mobilisation est évidemment bonne à prendre dans ce contexte.
Arnaud Schwartz, l'engagement citoyen, c'est quelque chose que vous connaissez bien à France Nature Environnement. Pourquoi il est important cet engagement sur toutes ces questions?
Parce qu'on a face à nous des intérêts particuliers de court terme, des intérêts économiques qui ne prennent pas assez en considération ce que nous dit la science. Donc l'intérêt général, l'intérêt à long terme de la communauté vivante sur cette planète, pas uniquement les humains. Et qu'on a besoin qu'une partie de plus en plus importante de la population se mobilisent ou à minima soutiennent la mobilisation de personnes qui rappellent à l'ordre nos dirigeants. Celles et ceux qui veulent être des élus, des représentants de la population, se doivent de mettre en œuvre des politiques d'intérêt général. Il est inconcevable qu'ils continuent à faire, comme depuis des dizaines d'années, une politique qui favorise uniquement l'accumulation de richesses d'une minorité au détriment des conditions de vie de toutes et tous, ici et en dehors de l'Union européenne.
Et pour le RAC, pour le réseau Action Climat, Caroline François-Marsal, en un mot, parce qu'il va falloir qu'on marque une pause, pourquoi cet engagement citoyen, peut-être aussi à l'approche des élections européennes, pourquoi il est important ?
Il est fondamental. Il faut absolument faire pression sur les candidats et aussi sur les chefs d'État qui sont en train d'adopter leurs priorités pour la prochaine mandature sur un document qui s'appelle l'agenda stratégique. On pourra y revenir tout à l'heure. Et je dirais en parallèle de cette mobilisation des citoyens, l'importance aussi, c'est d'aller voter et de ne pas laisser justement les élections européennes comme une élection inintéressante.
Allez, on va marquer une pause dans cette émission, je pense. Donc j'agis, on a plein de choses à se dire encore sur les élections européennes et notamment sur les enjeux écologiques avec nos trois invités et avec vos appels, vos témoignages comme Elisa il y a quelques instants au 04 72 38 20 23 ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. À tout de suite.
Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
9h30 dans Je pense donc j'agis. Qu'attendez-vous des élections européennes en matière d'écologie ? Quels sont les points et les sujets sur lesquels vous allez être vigilants avec vos candidats ? Est-ce que vous pensez que l'Europe en fait suffisamment en la matière ou qu'elle n'a pas assez de moyens ? Venez témoigner au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Fortnite, c'était Taylor Swift et Post Malone pour vous accompagner en ce lundi matin.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et toujours avec nos trois invités jusqu'à 10h, Caroline François-Marsal du réseau Action Climat, Arnaud Schwartz de France Nature Environnement et Neil Makarov de Stratégique Perspective. Bonjour Hervé.
Oui, bonjour Melchior. Je crois que c'est Arnaud qui a fait une phrase tout à l'heure disant qu'en gros les gouvernements préféraient l'économie. Il l'a pas dit, mais on sentait dans son propos, et se laisser manipuler par les lobbies, plutôt que de s'intéresser aux problèmes climatiques. Il a raison, mais, et c'est le mais important, c'est que quand les gens votent, la première chose qu'ils attendent de politique, c'est que ceci permette à l'économie de mieux fonctionner et de réduire le chômage. Et ça, on pourra, et qu'ensuite, c'est des belles phrases en l'air d'accuser les lobbies et l'économie. Mais ce qu'il faut, c'est que les gens, la première chose qu'ils attendent, c'est d'avoir du boulot. Pour eux, c'est encore plus prioritaire que les problèmes écologiques. Et enfin, pour les problèmes écologiques, quand on accuse les entreprises, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que les consommations privées, donc de la part des citoyens, favorisent plus le réchauffement que les process des entreprises.
Merci beaucoup Hervé pour votre témoignage au 04 72 38 20 23. Arnaud Schwartz, je me tourne vers vous. Hervé nous dit il faudrait pas trop accuser les politiques de privilégier l'économique aux politiques. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, de toute façon, je n'accuse pas les politiques de s'intéresser à l'économie. Il faut qu'il y ait une économie qui fonctionne. Mais ce que je disais, c'est qu'ils avaient tendance à trop privilégier des intérêts économiques de court terme. Et ça, c'est pas bon pour l'économie à moyen et long terme. Et c'est pas bon non plus pour notre santé, pour la planète, pour les autres espèces vivantes. C'est-à-dire qu'on a en place un système économique qui globalement dysfonctionne. Ils surexploitent les ressources naturelles et ils créent des injustices ici et ailleurs. Alors qu'on a tout un tas d'alternatives, d'exemples qui existent déjà, que ce soit en Europe ou en dehors, de façons de travailler, de créer des emplois, de faire société, qui sont beaucoup plus respectueuses de l'humain et des ressources naturelles. Donc on peut protéger le climat, on peut réduire la pollution, on peut créer des emplois, c'est possible. Encore faut-il le vouloir. Et bien souvent, la problématique derrière ça, c'est qu'il y a des acteurs économiques émergents et qu'il y a une redistribution des parts de marché qui s'opère en leur faveur. Et du coup, il y a des acteurs qui aujourd'hui sont dominants, qui exercent des formes de monopole, souvent qui ont tout à perdre dans le changement. Et c'est là qu'on a des freins qui se posent et qu'on a des politiciens sous influence parfois trop grande.
Neil Makarov, Hervé nous disait également, alors je reprends ses propos, que pour les Français, il était plus important de trouver un emploi que de s'intéresser vraiment au changement climatique. Je résume vraiment son propos. Hein. Est-ce que c'est vrai ça, Neil Makarov, ou c'est à nuancer?
Je pense que c'est à nuancer. Le climat reste très élevé dans les sondages d'opinion, dans les préoccupations des Français. Notamment pour ces élections. Et d'ailleurs, c'est là où l'Europe, en fait, peut vraiment agir et concilier les deux, l'emploi et le climat. Typiquement, quand l'Union européenne décide de mettre fin à la vente de véhicules thermiques neufs en 2035. Alors, on pourrait imaginer que c'est une mesure punitive. Certains la qualifient telle quelle. Mais en réalité, cette mesure, elle permet aux constructeurs automobiles européens de prendre le tournant du véhicule électrique. Il y a des milliards d'euros qui sont investis dans nos territoires pour construire les usines de batteries. Et rien que dans les Hauts-de-France, on estime à 20 000 emplois qui pourraient être créés d'ici à 2030 dans la filière du véhicule électrique. Donc, on voit typiquement que cette transition écologique qui est portée par l'Europe, c'est aussi la première pierre d'une réindustrialisation verte du continent européen. Et au contraire, revenir en arrière sous prétexte de l'économie, ce qui est souvent un argument un peu fallacieux, risquerait de mettre en danger finalement et ses investissements et ses emplois à l'avenir. Donc on voit que finalement l'Europe, aujourd'hui, elle arrive à concilier l'économie et le climat. Oui. Encore faut-il de la stabilité au prochain mandat, c'est-à-dire ne pas revenir en arrière sur ces mesures qui sont très emblématiques.
André, vous êtes à Bruxelles au 04 72 38 20 23. Bonjour André.
Oui, bonjour, voilà. Moi, je veux dire, je peux déjà dire que je m'inscris en faux de ce que vient de dire votre intervenant avec les véhicules électriques. Parce que dans la situation actuelle, les véhicules deviennent d'abord de plus en plus gros, ce qui est une ineptie au niveau écologique. Et là, l'Union européenne ne fait absolument rien contre. D'ailleurs, il y a même des véhicules chinois qui envahissent l'Allemagne parce qu'ils sont plus petits et ils sont électriques et plus petits, ce qui est assez paradoxal. Ils sont mieux même au niveau écologique. Mais disons aussi donc à ce niveau-là, donc je veux dire qu'il y a des solutions aussi alternatives qui ne sont jamais utilisées, comme la conversion des véhicules diesel en véhicules qui fonctionnent à l'huile, des huiles récupérées, fritures et autres, qui ne seraient pas de problème au niveau écologique. Et puis c'est aussi un problème global. Il y a la question de par exemple des accords internationaux, code de commerce de type Mercosur, qui aggrave la situation écologique avec, disons, Brésil, l'agriculture et l'élevage intensif, enfin non respectueux en général des questions, et la question du transport, naturellement, en Asie, etc. C'est débile, quoi. Bon, ça, pour moi, je veux dire, par rapport à tout ça, alors qu'on essaye de criminaliser que les gens au niveau individuel pour qu'ils adoptent un comportement écologique sans que ce soit les entreprises qui subissent. Moi, je trouve que depuis des années que ça dure, ce truc avec la commission qui nous impose n'importe quoi, il faut sortir de ce machin, comme dirait De Gaulle, qui est l'Union européenne, et créer une fédération européenne des peuples. Voilà, c'est ce que je dirais.
Eh ben, merci beaucoup, André, d'avoir partagé votre avis avec nous ce matin. Ben, c'est intéressant, on a vraiment un large panel, et c'est ça aussi la force de cette émission. Caroline François-Marsal, comment vous réagissez à ce témoignage d'André qui nous dit c'est un peu Bruxelles contre Bruxelles, il faudrait sortir de ce machin, pour reprendre les termes de général De Gaulle.
Alors peut-être juste pour rebondir sur ce qu'André disait sur la voiture électrique.
Oui.
Je pense que André touche du doigt quelque chose de fondamental, c'est la sobriété. Et que on a beau décarboner effectivement et passer à l'électrique, ça ne produira pas suffisamment d'effets pour l'environnement si par ailleurs on ne réduit pas la taille des véhicules, si on ne légifère pas pour avoir des véhicules plus petits, plus accessibles. Et la sobriété, c'est vrai que sous cette mandature, c'est un aspect qui n'a pas été suffisamment mis en œuvre, déployé dans les lois. On a par exemple des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, mais on n'a pas de réduction de consommation des ressources naturelles qui pourrait être adoptée au niveau européen. Donc ça, je voudrais quand même souligner que c'est effectivement important, et autant la sobriété que l'accessibilité des solutions sont deux aspects sur lesquels il faudra absolument travailler sous la prochaine mandature. Après, on a souvent une vision assez biaisée du jeu démocratique européen, où on a l'impression que c'est la Commission européenne qui impose des normes. En fait, c'est tout autrement. C'est-à-dire qu'on le disait tout à l'heure, les processus démocratiques sont compliqués à Bruxelles, mais parce qu'on négocie à 27. Et on a deux ans de négociations entre les ministres sectoriels, entre l'ensemble des 700 eurodéputés à Bruxelles, qui négocient entre eux, qui discutent aussi bien sûr avec la Commission européenne, mais les ministres et les eurodéputés sont des élus. Ça, c'est de la démocratie. Donc, enfin, l'élection européenne, par exemple, de juin prochain, elle est cruciale justement pour rajouter de l'appartenance citoyenne à ceux qui composent l'hémicycle. Et voilà. Donc, je pense qu'il faut quand même pas oublier qu'on a des négociations qui concernent tous les États, tous les députés, et qui sont complètement conscients et acteurs des lois qui sont mises en place.
Nel Makarov.
Oui, tout à fait. Enfin, le travail n'est pas fini sur la transition écologique à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup pendant ce mandat. On a opéré le tournant vers le véhicule électrique qui, je le rappelle, a été opéré par la Chine il y a 20 ans. C'est aussi pour ça que la Chine, aujourd'hui, inonde le marché européen avec des véhicules électriques moins chers, souvent plus petits. C'est parce que les constructeurs automobiles européens, ils ont trop tardé à faire cette transition. Et il a fallu attendre donc 2021 pour vraiment opérer ce tournant à l'échelle européenne. Et donc, on a du retard par rapport aux constructeurs chinois. Et c'est pour ça que, dans le prochain mandat, il faut continuer, finalement, cet agenda du pacte vert européen, de lui doter d'une jambe industriel, c'est-à-dire construire des usines de véhicules électriques sur le territoire européen, fabriquer des plus petits véhicules et donc moins chers pour qu'ils soient accessibles aux classes moyennes et aux classes populaires. C'est vraiment l'objet de la mandature du prochain mandat. D'où l'importance aussi d'envoyer des députés européens qui porteront ces messages au Parlement européen, parce que sinon le risque, risque, c'est qu'en effet, dans les prochaines années, on se fasse complètement déclasser d'un point de vue économique par l'industrie chinoise. Donc là-dessus, je rejoins un peu votre auditeur Hervé. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on doit faire les prochaines étapes de la transition écologique à l'échelle européenne et non pas s'arrêter au milieu du chemin.
Une réaction de Jean-Jacques qui nous dit « Je ne compte pas sur l'Union européenne composée de ses 27 États aux priorités très personnelles et opportunistes pour régler le problème climatique. La France en est le meilleur exemple qui a fait capoter le plan Ecophyto sur simple pression d'agriculteurs productivistes plus prompts à poursuivre leur course à l'utilisation de produits phytosanitaires qu'à agir pour les diminuer. » Moi, je trouve ça intéressant. Je précise que les questions agricoles, on les évoquera demain, dont je pense, donc j'agis avec Anne-Claire Léo, mais ça fait quand même partie du sujet la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique. Caroline François-Marsal, est-ce qu'il a raison de dire ça, Jean-Jacques? Est-ce que ça rejoint un peu ce qu'on disait en début d'émission? Oui, l'Europe prend des décisions. Après, c'est à chaque État de faire un petit peu son tri. Parce que Ecophyto, le plan Ecophyto 2+, si je ne me trompe pas, il répondait aussi à une obligation européenne qui avait été fixée il y a quelques années déjà.
Alors effectivement, les États doivent faire leur part, notamment sur la mise en œuvre des lois qui doivent déjà être transposées et ensuite qui doivent être appliquées dans les territoires. Et ça rejoint complètement la question de l'investissement. On est face à un déficit d'investissement au niveau européen, mais également au niveau national en France pour déployer la transition écologique. Maintenant, là, je pense où il faut quand même insister, c'est que, bon, dépendant des secteurs, mais globalement, l'Union européenne va tirer l'ambition environnementale dans les États. C'est un atout, en fait, pour faire avancer les questions climatiques et environnementales. On le disait en début d'émission avec le Green Deal, qui est une feuille de route la plus ambitieuse jamais adoptée. À mon sens, c'est important d'agir ensemble et de rester à 27 justement pour continuer à tirer l'ambition environnementale de manière collective sur ces sujets.
C'est un peu fort quand Jean-Jacques nous dit que ces 27 États ont des priorités très personnelles et opportunistes. Des États qui ne pensent qu'à eux, si je devais résumer leurs propos, Neil Makarov.
Alors, en effet, chaque État, c'est une bonne discussion. Chaque État a en effet ses propres intérêts, et ce qui rend le jeu politique européen extrêmement complexe, et il est difficile d'aboutir à des décisions. Néanmoins, quand il y a des décisions qui sont prises à l'échelle européenne, elles engagent les 27, elles engagent 450 millions d'Européens, donc on a une force de frappe beaucoup plus importante. Et quand on compare la taille de l'Union européenne avec celle de la Chine ou des États-Unis qui rattrapent leur retard dans la transition écologique, on s'aperçoit qu'en fait, sans l'Europe, il serait extrêmement difficile d'agir à une échelle globale. Typiquement, sur l'agriculture, c'était un des sujets qui a été mis en avant assez tardivement pendant ce mandat. On s'aperçoit qu'il y a très peu de décisions qui ont été prises sur la transition écologique du secteur agricole, très peu d'harmonisation environnementale à l'échelle européenne. Et c'est d'ailleurs ce qui crée en fait une forme de concurrence un peu déloyale entre les agriculteurs au sein de l'Union européenne. Donc on pourrait imaginer qu'au contraire, plutôt que d'assouplir les normes environnementales, on puisse en mettre en place à l'échelle européenne pour finalement harmoniser vers le haut, ce qui permettrait d'éviter toute concurrence déloyale entre un agriculteur, par exemple, polonais, tchèque, espagnol ou français. Donc c'est là où l'Europe, elle a aussi cette capacité d'harmoniser et de tirer tout le monde vers le haut à un certain moment.
Il est 9h47, ça passe très très vite. Il serait long et laborieux d'aller étudier les 21 listes pour ces élections européennes, notamment en matière d'écologie. Alors on va essayer de résumer un petit peu parce que il y a à prendre ou à jeter, hein, d'ailleurs, comme pour toutes les élections. Je vous propose de faire peut-être un petit tour d'horizon et comme ça vous pourrez commenter chacun et chacune les différentes propositions. Peut-être si on s'intéresse à la liste La France Insoumise, un objectif pour eux, c'est vraiment de passer au 100% renouvelable en Europe à l'horizon 2050. Pour le coup, ça rejoint, et la neutralité carbone dès 2040 d'ailleurs, ça rejoint, Caroline, le Green Deal.
Oui, tout à fait. Cette mesure va dans le bon sens puisqu'elle va dans le sens d'une accélération, d'un renforcement en fait des initiatives du Green Deal qui visent déjà à augmenter considérablement la part des renouvelables dans le mix énergétique européen. Nous, au Réseau Action Climat, on est complètement favorable à cette mesure parce que elle contribue bien sûr à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre en diminuant notre dépendance aux énergies fossiles et par ailleurs à augmenter notre indépendance énergétique par la même. Et elle fait partie des trois leviers avec l'efficacité énergétique qui passe notamment par la rénovation thermique des bâtiments et la diminution de notre consommation d'énergie, ce qu'on appelle la sobriété. Et avec ces trois leviers-là, on peut atteindre des objectifs ambitieux en fait de réduction de gaz à effet de serre. Les renouvelables en particulier, c'est une solution qui est rapide à déployer et qui nous permet d'atteindre rapidement en fait nos objectifs pour 2030, là où d'autres solutions, alors notamment le nucléaire, peut être plus long à mettre en place.
Arnaud Schwartz, sur cette proposition, alors vous à France Nature Environnement, vous avez également proposé des choses pour ces élections européennes, ou en tout cas des souhaits en matière de décision.
Oui, il y a évidemment beaucoup de choses qui restent à faire. Hein. En prenant l'exemple de l'agriculture, Neil tout à l'heure montrait bien qu'il fallait déjà faire en sorte qu'on arrête de se faire la guerre entre nous, quoi. Au niveau de l'Union européenne, la concurrence déloyale doit cesser en interne, mais dans tous les domaines économiques, hein, on doit être beaucoup plus coopératif. Mais aussi et surtout, ce qui manquait beaucoup au Green Deal, c'était un volet international où on défend nos standards sociaux et environnementaux. Il faut promouvoir les règles qu'on met en place en Europe pour avoir une bonne qualité de vie, une qualité de vie au travail, une protection de la nature, du climat, et faire valoir ça dans les accords de commerce internationaux. C'est le rôle de l'Union européenne et on demande à ce qu'elle soit beaucoup plus forte en la matière. Et puis, bon, au-delà de ce qu'on aimerait pour la prochaine période, nous, on encourage chacune et chacun à aller voter en tenant compte de ce que les différents partis politiques ont fait durant les dernières années. Et pour ça, sur notre site internet, vous trouverez un petit outil très simple où vous pouvez chercher, soit par thématique environnementale, soit par parti politique, eh bien, ce que les élus ont voté. Est-ce qu'ils ont été dans le bon sens ou pas, d'après ce que nous dit la science ?
Alors, si on s'intéresse à la liste portée par le Rassemblement national, il s'agit beaucoup de dépendance énergétique. C'est un sujet qui est revenu sur la table quand même depuis quelques années, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine, Neil Makarov. Le RN souhaite, par exemple, baisser la facture d'électricité des Français de 30 à 40% et puis également protéger le mix électrique français en refusant toute ingérence européenne. Ça, c'est un sujet majeur également.
C'est un sujet majeur. Par contre, ce que propose le Rassemblement national à ce niveau-là n'est pas vraiment la bonne solution. Parce qu'en l'occurrence, si on veut vraiment atteindre l'indépendance énergétique à l'échelle européenne, mais aussi française, en réalité, le moyen le plus rapide, c'est de déployer très rapidement des énergies renouvelables. Parce qu'on sait que dans les 15 prochaines années, on va avoir très peu de nouveaux réacteurs nucléaires qui vont rentrer, qui vont fonctionner. Il faut attendre un petit moment avant d'en construire un. Et donc, seuls les énergies renouvelables et leur déploiement très rapide peut permettre en fait d'électrifier nos véhicules, d'électrifier notre chauffage, notre industrie, et donc de réduire notre dépendance au gaz, au pétrole et au charbon. Parce que le vrai risque en fait en France comme en Europe, c'est d'être extrêmement dépendant d'importations des États-Unis, du Qatar, d'Azerbaïdjan, de Russie pour ces énergies fossiles que sont le gaz, le pétrole et le charbon. Et là-dessus, le Rassemblement national n'apporte pas vraiment de solution. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu leur vote passé au Parlement européen, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont plutôt même défendu le statu quo sur les énergies fossiles. Ils ont refusé l'embargo vis-à-vis du gaz, du pétrole et du charbon russe au début de la guerre en Ukraine. Ils refusent aussi ce qu'on appelle le Fonds social pour le climat européen, qui est un fonds qui vise à aider les ménages à sortir de leur dépendance à une chaudière au gaz, par exemple, ou à un vieux véhicule diesel. Donc en fait, ils n'ont pas vraiment été force de proposition jusqu'à présent pour nous affranchir de notre dépendance aux énergies fossiles, qui est vraiment quelque chose qui est extrêmement coûteux d'un point de vue économique, évidemment, pour les factures des ménages, mais aussi coûteux d'un point de vue géopolitique, parce qu'on est extrêmement dépendant de puissances comme la Russie, l'Azerbaïdjan ou le Qatar.
Ça voilà, ça c'était pour la liste portée par le Rassemblement national. C'est à chacun aussi de se faire son avis. Moi, je vous invite grandement à vous rendre sur les sites des 21 listes. Alors, 21, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais faites votre tri, allez regarder, allez vous renseigner. Il y a du bon, il y a du moins bon peut-être dans chaque liste, mais comme pour toutes les élections, donc allez-y, n'hésitez pas. Et c'est important d'aller se renseigner avant parfois d'émettre un avis. Caroline François-Marsal sur les écologistes. Alors là, pour le coup, c'est vraiment une liste qui souhaite une Europe sans toxiques. sans toxiques, sans substances reconnues comme les plus dangereuses, en essayant de lutter contre ces substances chimiques qui font partie du marché industriel.
Oui, effectivement, c'est l'un des pans aussi à développer dans le Green Deal, la lutte contre la pollution, et c'est une mesure qui va dans le bon sens. Il me semble qu'il propose notamment d'adopter un fonds de transition juste, justement pour lutter contre la dépollution des territoires et préparer la reconversion des emplois et des industries en vue de cette dépollution. Le fonds de transition juste, c'est un fonds qui existe déjà en fait au niveau européen et qui attribue plusieurs millions d'euros aux territoires les plus dépendants des énergies fossiles. Il y a 10 départements en France qui en sont bénéficiaires pour décarboner leur industrie. Donc c'est l'exemple d'une mesure qui certes passe par du réglementaire, mais qui a aussi un pan doublon de mesures d'accompagnement en mettant sur la table des financements. Et ça, c'est vraiment le rôle que l'Europe doit jouer, en fait. C'est de ne pas seulement aller sur du réglementaire, mais d'apporter des outils de mise en œuvre et d'accompagner les territoires et les États dans ces transformations.
Et puis, on en vient... Peut-être que vous voulez commenter, Arnaud Schwartz, sur la liste des écologistes.
Nous, encore une fois, à France Nature Environnement, on vous dit regardez un peu les actes plutôt que de passer du temps sur les promesses qui vous sont faites en vue de ces élections. C'est-à-dire, je ne jette pas à la poubelle tous les programmes électoraux des 21 partis, ça peut être intéressant de les consulter, mais quelque part, si on veut voir ce qui a été vraiment fait pendant les dernières années et qui a bien bossé, qui a été dans le bon sens ou pas, ben, il y a des outils qui existent pour, je vous le redis, sur notre site internet, vous pouvez consulter ça ou ailleurs aussi sur d'autres sites et vraiment regarder ce qu'ont voté les eurodéputés des différents partis et là vous verrez très clairement ce qui peut être intéressant si vous pensez que l'environnement, la santé, la biodiversité, le climat, c'est quelque chose d'important pour qu'on puisse continuer à vivre en paix dans une économie où on trouve des emplois intéressants et où on évite les guerres telles qu'on en connaît déjà aujourd'hui bien trop sur la planète.
On en vient à la liste place publique plutôt de la gauche du Parti socialiste. Alors là, il y a une proposition qui je trouve intéressante à discuter, c'est le financement d'un ticket climat. Ça aussi, c'est beaucoup revenu sur la table, Neil Makarov, par exemple, de 49 € par mois en France pour les trains régionaux, mais tout en essayant aussi de doubler les financements pour le développement des lignes de transport en public entre les moyennes et grandes villes européennes, et bien sûr en réinvestissant dans le fret ferroviaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est un sujet qui est revenu sur la table ces derniers mois.
Oui, et beaucoup d'États européens ont mis en place ce fameux ticket climat pour prendre le train de manière illimitée sur leur territoire. C'était d'abord le cas de l'Autriche, puis de l'Allemagne, de l'Espagne. Et on voit que ça a un effet très concret, c'est que les citoyens et les citoyennes reviennent dans les trains. Ils ont beaucoup plus accès au train, ils le plébiscitent parce que c'est un moyen de transport finalement qui peut redevenir populaire et peu cher. Donc le ticket climat, c'est une très bonne mesure pour le climat, mais aussi quelque part pour la mobilité des citoyens. Maintenant, c'est pas une mesure qui est de la compétence propre de l'Union européenne, parce que l'Union européenne peut pas décider d'émettre un ticket climat. En revanche, elle peut largement inciter ses États membres à le faire. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé typiquement en Espagne. En Espagne, le gouvernement espagnol a décidé de prendre l'argent, de mettre en place une taxe sur les énergéticiens des énergies fossiles qui a été portée à l'échelle européenne. Et cette taxe, finalement, ils utilisent les recettes pour financer le ticket climat et aider les travailleurs à se déplacer entre leur domicile et leur lieu de travail. Et donc, c'est assez vertueux parce que finalement, on prend aux plus émetteurs, aux plus pollueurs, et on permet de redistribuer les recettes finalement à ceux qui en ont vraiment besoin pour avoir des solutions de transition, en l'occurrence le train. Donc voilà, c'est un des bons exemples, l'Espagne, qu'on pourrait très bien voir répliquer ailleurs en Europe.
Bon, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon ce matin. On aurait pu continuer quelques heures. Malheureusement, on n'avait qu'une heure. C'est déjà pas mal. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de sujets ce matin. En un mot, Neil, je me tourne vers vous pour finir. Pourquoi il faut aller voter aux élections européennes dans 27 jours ?
Tout simplement parce que l'Europe, c'est l'espace où le climat peut vraiment être la priorité, où on peut vraiment accélérer cette transition écologique. Et le travail n'est pas fini. Donc il ne faudrait pas que l'Europe s'arrête au milieu du chemin, parce que L'Europe n'est pas seule dans la course mondiale à la transition écologique, il y a la Chine et les États-Unis aussi. Et arrêter maintenant la transition écologique à l'échelle européenne, c'est risquer le déclassement économique. Donc vraiment, aller voter le 9 juin, c'est aussi s'assurer qu'on a toujours le climat en haut de l'agenda européen.
Merci beaucoup Neil Makarov d'avoir été avec nous, directeur de Stratégique Perspective et expert à la Fondation Jean Jaurès. Merci Caroline François-Marsal également pour votre participation, responsable Europe pour le réseau Action Climat. Et merci à Anouk Schwartz, vice-président de France Nature Environnement. Dans un instant, on va parler des jeunes qui s'engagent. À tout de suite.